Radio Capi, grand témoin.
Bonjour et merci de rester fidèle à Grand Témoin. Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui le docteur Soulou Maseb Amouang Stanisla. Il est président de la Ligue nationale contre le cancer. Docteur Soulou, merci d'avoir répondu à notre invitation.
Bien, merci.
Vous êtes président de la Ligue nationale contre le cancer, en rapport avec la journée du cancer qu'on a célébrée la semaine passée. Nous allons parler avec vous de l'évolution de cette maladie, des recherches sur cette maladie dans le monde, mais surtout en RDC. On sait que c'est une maladie qui tue à petit feu lorsqu'elle n'est pas détectée avant. On va en parler dans cette émission, mais on va commencer par une petite biographie de vous pour faire connaître aux auditeurs de Radio Capi qui est le docteur Soulou. C'est vrai que docteur Soulou, c'est un nom connu en RDC et même dans le monde, hein, docteur. Alors, vous êtes né un certain 9 avril 1953 à Wing Kong. C'est ça?
Mais vous savez, parler de soi-même, ce n'est pas ça, c'est important. Oh là 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 là, enfin, je le découvre moi-même que vous savez bien ma date de naissance, que vous avez peut-être beaucoup plus, je ne sais pas d'où vous tirez tout ça, mais c'est correct ce que vous dites, oui.
C'est correct, vous êtes à Wing Kong, docteur.
Ouais, ouais.
Alors c'est là que vous avez grandi?
Vite, d'abord grandi au village, hein, disons dans deux villages qui s'appelaient, disons, Manamzang, Kahak, puis Kapak, Kalamb, disons, tout cela, hein, aussi bien dans le Katanga et à la frontière dans le Kasai.
Je vois que vous avez du mal à parler.
Et puis finalement,
étudiant,
et puis finalement en Bandaka, et puis finalement à Kinshasa, et puis finalement en Europe, donc en Belgique. En fait, voilà un peu le parcours, hein, donc s'il faut dire les choses comme ça.
Alors, docteur Soulou, vous avez un diplôme de médecine en gynéco-obstétrique.
C'est vrai, bien sûr. Donc, je suis en fait médecin spécialiste en gynécologie et obstétrique, donc de l'Université de Liège en Belgique.
En Belgique.
Plus d'autres certificats, bien sûr, dans d'autres domaines. Voilà.
Mais dans le secteur de santé.
Bien sûr, dans le secteur de santé. Par exemple, je suis également spécialiste en échographie. Disons, je fais de l'hydrodynamique. Donc, l'hydrodynamique, c'est en fait la science de pouvoir étudier tous les désordres, hein, donc qui peuvent amener à la fuite des urines, donc ce qu'on appelle l'incontinence urinaire chez la femme, donc une femme qui perd les urines, quels en sont les mécanismes, d'accord, et comment soigner tout cela. Et d'ailleurs là-dessus, on a publié un livre, on l'a publié à partir des États-Unis. J'ai fait également de la procréation médicalement assistée, donc dans le cadre de la fertilité, donc de personnes qui ont des difficultés de pouvoir concevoir, comment aller jusqu'à la procréation médicalement assistée, toujours de Liège. C'est un peu ça.
Pourquoi vous avez décidé d'embrasser le domaine de la santé?
Bien, disons que mon rêve quand j'étais enfant, c'est que il y avait à l'époque des gros postes de radio, et c'était de radio, les premières radios qui ont apparu, hein, ça a été de radio en bois avec une grosse batterie comme celle de voiture, et je pensais qu'il y avait disons quelqu'un qui parlait là-dedans. Alors, j'ai fait un vœu à ma mère que je fabriquerais moi la première radio du Congo. Alors, donc, j'ai étudié dans ces perspectives-là d'un jour de produire un poste de radio. Et puis, je voyais ma mère tout le temps avec une houe faisant quelques mètres carrés de champ. Et je voulais également, donc, absolument arriver soit à fabriquer un tracteur ou au moins acheter un tracteur pour ma mère. Donc, j'ai grandi avec ces idées-là. Hein, donc, quand j'ai fini mes études, qui étaient des études pédagogiques, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'écoles, hein, dans le pays. Il fallait aller parfois à 200, 300, 400 kilomètres, 500 kilomètres pour trouver une école. Malheureusement, c'était de la pédagogie qui dominait. Donc, j'ai fait de la pédagogie. Et alors, quand j'ai fini, parce que j'avais toujours cette idée en tête, donc j'ai dû faire la propédeutique science pour convertir ma pédagogie donc en études scientifiques. Donc, j'ai été en polytechnique finalement, et de la polytechnique parce que, comme j'ai dit, je tenais absolument à devenir ingénieur à cause de toutes les promesses faites à ma mère. Mais malheureusement, à l'époque, on sélectionnait des gens. Et j'avais bien écrit Polytechnique, j'y étais. Mais un jour, donc, le père, à mon avis, s'appelait Police, je pense, Monseigneur, le nom va venir ou ne viendra pas, peut-être pas important. Et lui est venu à l'auditoire dire, écoutez, vous avez une attestation d'inscription. cette attestation d'inscription, c'est écrit 311. Ce chiffre-là, je ne peux pas oublier. Mais c'est écrit en lettres médecine, mais le chiffre, c'est 311. Médecine, ce n'est pas 311. Et il est venu me chercher à l'auditoire. Il m'a amené en médecine. D'abord, j'ai refusé. Mais en fait, finalement, j'ai dit, écoutez, c'est ça.
La médecine, ce n'était pas au départ votre choix, mais vous vous êtes retrouvé là-bas par contrainte.
Tout à fait. Donc, comme cela. Et finalement, j'ai trouvé après que c'était bon. Et aujourd'hui, je me sens très bien dans ma peau de médecin. Et je pense que la correction était bonne par ce prêtre qui assurait, disons, la sélection des étudiants.
Docteur Soulou, vous êtes président de la Ligue nationale contre les cancers. Le cancer, une maladie qui tue plusieurs personnes dans le monde et même en RDC. Pourquoi d'abord la création de cette Ligue nationale contre cette maladie?
Parce que d'abord, le cancer, il tue plus que toutes les autres maladies, d'accord? Et imaginez-vous 84 millions, 85 millions de morts entre 2005 et bientôt 2014, a dit l'OMS. Il n'y a ni guerre, ni fléau, ni rien, ni autre catastrophe ou autre maladie. Il n'y a rien qui tue plus que le cancer. D'autre part, quand vous prenez les maladies qui sont financées chez nous ici, le programme de tuberculose, paludisme, sida, quand vous prenez ces trois programmes tuent beaucoup moins que ne le fait le seul cancer. Donc même dans notre pays, je ne sais pas si vous vous interrogez parfois, les adultes meurent de quoi? C'est le cancer qui tue le plus. Et des sources hospitalières, on le voit aussi, hein. Parfois c'est 1 sur 3, 1 sur 4 qui meurent de suite de cancer, quand on a la possibilité de faire le diagnostic et voilà.
Et la Ligue existe depuis quand, Dr. Soulou?
La Ligue existe depuis les années, aux environs des années 90.
En RDC?
En RDC, mais vous êtes étonné.
Oui, ça m'étonne.
Oui, moi je savais aussi qu'elle n'existait pas avant, mais je l'ai su après qu'elle existe. Mais qu'elle était en latence. Donc maintenant, ça fait à peu près 6 ans qu'elle existe, petit à petit, voilà. Mais je suis président, ça fait bien sûr la deuxième année que je suis président de la Ligue contre le cancer.
Alors, docteur Soulou, peut-être que je me trompe, vous allez me corriger. Quand on était enfant, peu plus jeune, on nous disait que les cancers, c'était une maladie des Blancs, que c'était les Blancs qui mouraient de cette maladie. Oui. Mais de plus en plus, on constate qu'en Afrique, et même en RDC, beaucoup de gens commencent à mourir de cette maladie-là. C'est dû à quoi?
La première chose, c'est que nous évoluons. Il faut dire aussi que la santé au Congo évolue, n'est-ce pas? Hein, c'est que nous n'avions pas les capacités avant, quand vous étiez jeune, et encore loin quand moi j'étais jeune, on n'avait pas de diagnostic, de moyens de pouvoir diagnostiquer le cancer. On n'avait pas de spécialistes qui examinent les lames, donc les anatomopathologistes, on n'en avait pas. Donc on n'avait pas d'autres examens de dépistage du cancer. Donc tout ce qu'il y a aujourd'hui...
On en a maintenant?
Oui, bien sûr. Tout ce qu'il y a aujourd'hui comme scanner et tout ça n'existait pas, bien sûr. Hein. Et surtout l'anatomopathologie, on n'avait pas. Tout l'outillage de diagnostic, on l'avait pas. Mais il y a une raison dans tout cela, parce que il faut dire que c'est depuis les années 90 que le cancer ne fait qu'évoluer, parce que nous avons changé nous aussi, donc nous avons pris les attitudes, vous m'avez dit la maladie de Blanc, je voudrais donc utiliser le même vocabulaire que vous, donc nous avons pris les habitudes alimentaires de Blanc. Aujourd'hui nous fumons beaucoup, nous consommons beaucoup d'alcool, les alcools forts, et si vous comparez vers les années 50, là où nous sommes nés, donc il y avait bien moins d'alcool, et puis l'alcool était réglementé. On consomme beaucoup d'alcool, on consomme beaucoup de graisse, et d'autre part, on devient beaucoup plus sédentaire, on se déplace moins à pied, on fait moins d'efforts, donc on est assis, on prend de poids, on devient obèse, et tout cela, alors disons, on mange de nourriture qui sont transformées, et alors on consomme moins de fruits, on consomme moins de légumes, et c'est tout cela qui fait que aujourd'hui, le cancer est en net accroissement dans notre pays à cause de notre mode de vie. Plus tout ce qu'il y a comme pollution, toutes ces libertés sexuelles, d'accord? Eh bien, on a plusieurs partenaires, par exemple. Nous voyons de plus en plus que...
Là aussi, ça peut donner un cancer?
Mais absolument, parce que ce que nous voyons chez les femmes, ici dans nos milieux, nous n'avons pas encore des statistiques, donc disons une cartographie du cancer sur notre pays, parce que, petit à petit, nous aurons un jour le risque du cancer. Donc, le ministère de la Santé, la Ligue et toutes les autres associations mettront chacun la main à la pâte pour qu'il y ait des registres de cancer. Mais même si on n'a pas de risque de cancer, on voit très bien que les femmes meurent d'abord de suite de cancer du col, sinon alors du cancer du sein et les autres cancers, bien sûr. Mais quand nous parlons du cancer du col de la matrice, par exemple, c'est une infection, n'est-ce pas? C'est une infection.
C'est une infection mal soignée qui finalement se transforme en cancer?
C'est une infection mal soignée, mais souvent même pas soignée, hein, souvent même pas soignée parce que méconnue. Donc voilà. Donc je voulais dire, parmi les facteurs qui font qu'aujourd'hui il y a plus de cancers chez nous, même par rapport aux blancs. Vous imaginez, je peux vous donner quelques statistiques, quelques chiffres. C'est que chez nous, dans nos pays du Sud, 25% de cancers sont liés aux infections. Et la première infection, c'est celle due au virus que nous appelons le papillomavirus, qui infecte le vagin, le col, et alors qu'il transforme, qu'il donne de l'aise, qui vont se transformer d'une manière définitive en cancer. Donc, si on peut déjà éviter les infections, on a évité 25% de cas de cancer. Le virus de l'hépatite B et l'hépatite C pour le cancer du foie et, disons, l'hélicobactérie, donc une bactérie pour le cancer de l'estomac. Le schistosome ici, hein, qu'on attrape dans les eaux parce qu'on marche dans les eaux boueuses, peut également vous entraîner un cancer, par exemple, celui de la vessie. Et en plus, le régime alimentaire, d'accord ? Et le régime alimentaire, il est pour 6%, d'accord ?
Donc, il y a plusieurs facteurs qui sont à la base du cancer.
Tout à fait. Et le manque de l'exercice physique. Donc, le régime alimentaire, hein, le régime alimentaire pour 6%, le tabac pour 6% et les infections pour... Donc, on peut déjà éviter 37% dans le milieu du Sud, dans notre pays. On peut déjà éliminer 37% de cas de cancer.
Docteur, vous êtes président de la Ligue nationale contre les cancers. Est-ce qu'il y a des centres de dépistage du cancer en RDC ?
Normalement, la plupart des cancers, les médecins ou le personnel médical en a des compétences de dépistage. D'accord ? Le cancer du col de la matrice, par exemple, disons les frottis vaginaux qu'on appelle le frottis par Papa Nicolas ou Pape. Hein, Papa Nicolas, c'est celui qui avait mis en évidence ce type de... C'est prélevé avec une spatule, hein, ou avec une petite brosse, et ça ne fait même pas mal. Hein, on gratte un peu au niveau du col, on met sur l'âme, et puis on envoie au laboratoire, et puis le laboratoire dit. Donc, je pense que beaucoup de médecins, pas nécessairement des spécialistes, même parfois des infirmières, hein, peuvent donc prélever cela. Et les anatomopathologistes existent, même s'ils ne sont pas en nombre suffisant. Parce qu'on parle du dépistage, donc la prostate par exemple, hein, c'est le toucher rectal, hein, c'est juste un doigt dont on a besoin, plus un doigt ganté, hein, pour rechercher le cancer de la prostate, bien sûr, le dosage de sang. Donc tout cela, et puis ça, parfois ça se voit, le cancer de la peau, mais on le voit bien, le cancer du sein, mais on peut bien palper le sein. Donc est-ce qu'on peut dépister les cancers chez nous ? Oui. On peut bien les dépister, mais le dépistage individuel ne peut pas faire baisser les taux de cancer sur un pays. Parce que vous allez le faire, moi je ne vais peut-être pas le faire, donc ça ne donne pas de bons résultats. Donc la question c'est, est-ce qu'il y a des centres de dépistage systématiques ? Est-ce qu'il y a des programmes systématiques, hein, de programmes pour un dépistage systématique du cancer, des cancers ? Non. Voilà. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire ou accuser l'un ou l'autre, non. Mais à chaque chose, hein, son temps, petit à petit. Et c'est pour ça que nous sommes là, d'accord, pour que, et d'ailleurs le thème de cette année a été « Ensemble, c'est possible ». Ensemble, c'est possible, pour que aussi bien individus, associations comme gouvernement, que nous puissions nous mettre tous ensemble pour que le gouvernement n'accuse pas les associations ou accuse les individus, ou vice-versa, que tous ensemble nous puissions mettre la main à la pâte, l'INAC, etc.
Voilà. Pour mettre en place des centres de pistes.
Voilà. Les capacités existent tout à fait, mais c'est de mettre maintenant en opérationnel les centres de dépistage systématique.
Alors les capacités existent, oui. Mais pourquoi on ne le fait pas ? Qu'est-ce qui manque ?
Si ça n'a pas été fait hier, ça sera fait peut-être demain. Ça sera fait demain, pas peut-être.
Ou après demain.
Ou après demain, oui, bien sûr, ça sera fait. On a le
Et pourquoi pas aujourd'hui ?
Mais ça serait mieux aujourd'hui.
Voilà. On sait que les dépistages du sida, par exemple, comme c'est aussi une maladie qui tue, est quand même gratuit. Il y a des centres où les gens vont te faire dépister gratuitement, mais ce n'est pas le cancer.
Non, malheureusement. Et c'est ce qu'il faut que ça soit. D'accord ? Quand vous allez en Occident, nous allons encore dire, mais ils ont beaucoup de moyens. Mais ils n'ont pas eu beaucoup de moyens, ce n'est pas tombé du ciel. D'accord ? Ils ont cherché des moyens, ils se sont organisés. Donc il faut que nous aussi, nous puissions nous organiser. En commençant d'abord par les politiques gouvernementales. D'accord ? Parce que ce sont des institutions, hein, qui ont la charge de pouvoir mettre ces programmes là-bas en pratique et de financer également ces programmes là-bas. Hein, je ne vois pas un individu, surtout congolais, qui puisse disposer des millions, parce que ça coûte de l'argent tout ça. Et donc ça coûte des millions de mettre de programmes de dépistage. Donc c'est pour ça, c'est sur ce point-là que nous sommes, disons bloqués. Si, à mon avis, hein, le Parlement pouvait voter des budgets, hein, donc je pense qu'on peut bien y arriver parce que les capacités existent. Donc c'est principalement donc ce dépistage systématique et gratuit, hein, qui est important. Vous comparez cela au sida, mais en fait le sida, il faut un peu lire les comportements des gens. Et le sida, c'est souvent gratuit. C'est aussi financé par des grandes associations et donateurs internationaux qui donnent. Pour quelle raison? Parce que, en fait, le monde a peur de tout ce qui est contagieux. D'accord? Ceux qui donnent pensent aussi un peu à cette contagiosité de maladie. Vous savez que le cancer n'est pas une maladie contagieuse, même si dans le cancer du col ici, ou dans le cancer du foie, les facteurs qui le favorisent sont infectieux, mais le cancer lui-même n'est pas contagieux. Donc, c'est le mental en fait des donateurs, c'est le mental en fait des décideurs, c'est le mental des associations. Donc, ce qui n'est pas, disons, contagieux, même si c'est grave, même si c'est bon, ils regardent moins, de toute façon, je ne suis pas concerné. De toute façon, tel ou tel n'est pas concerné. Donc, c'est un peu cela. Alors que le cancer tue le plus, mais de toute façon, en dehors du Congo, il y a plein de pays, même africains aujourd'hui, qui financent la lutte eux-mêmes, la lutte contre le cancer, principalement par le diagnostic, améliorant les techniques de diagnostic. Donc, il y a deux pays qui financent, et même parfois des pays limitrophes. Donc, nous devrions nous y mettre, tous ensemble. Parce que sinon, d'abord, les soins eux-mêmes coûtent très cher, le dépistage coûte cher. Il faut donc trouver...
Non, c'est un autre problème.
Le traitement coûte excessivement cher aussi. Donc voilà un peu l'état.
Et lorsqu'on n'a pas de moyens, on est condamné à mourir avec cette maladie.
Mais non, ce n'est pas ça. C'est que si on n'a pas de moyens, on est condamné à mourir. Ce n'est pas ça. Si, disons, il y a une organisation, mais il y en a bien plein dans d'autres pays qui n'ont pas de moyens, qui sont bien soignés par ce qu'on appelle de mutuelles, n'est-ce
Alors
pas?
Alors on parle du Congo, le cas du Congo.
On parle du Congo. Mais oui, il faut, bien sûr, la famille va mettre la main à la poche. Malheureusement, c'est le cas. Mais certainement que... Moi, j'ai espoir et j'y crois. Et tout cela va aller un jour. Voilà. Alors, tous nous mettons la main à la pâte, sans accuser l'un ou l'autre.
Docteur
voilà.
Soulou, lorsque le cancer est déclaré, est-ce qu'on peut en guérir?
Oui, bien sûr. Donc, tous les cancers ne sont pas guérissables, mais 50% de cancers sont guérissables. D'accord? Donc, tous les types de cancers. Vous savez, quand nous parlons de cancer, il y en a bien des centaines. Type de cancer. Le cancer lui-même étant un mot qui est utilisé donc pour en fait caractériser des maladies qui ont des comportements semblables. Donc une cellule qui les cellules qui se multiplient d'une manière anarchique, d'une manière disons sans arrêt, d'accord, des cellules anormales d'abord qui deviennent anormales et qui se multiplient d'une manière anarchique et qui finalement vont constituer ce qu'on appelle des boules, des nodules ou des tumeurs et qui vont finalement envahir les tissus voisins, les organes voisins, est-ce qu'on peut en guérir? Oui, 50%, on peut en guérir. Mais pour pouvoir en guérir, mieux vaut ne pas l'avoir par des mesures de prévention. Mais maintenant, 50% qui peuvent être guéris, mais il y a un principe pour pouvoir en guérir. Il faut bien sûr d'abord que le cancer soit mis en évidence, qu'il soit diagnostiqué au stade précoce. Donc c'est d'abord le diagnostic précoce. Sinon, non. Mais dans nos milieux, pourquoi est-ce qu'on ne sait pas beaucoup prendre en charge, on ne peut pas guérir souvent du cancer, ne guérissent que très peu, parce que tout simplement, les malades viennent à des stades tout à fait tardifs. C'est quand c'est tard que les malades viennent. Et en ce moment-là...
Mais le problème, c'est que la maladie se déclare pas de manifestation physique pour détecter qu'on a un cancer.
Mais c'est pour
c'est
ça
souvent
que...
quand c'est un stade avancé que...
Oui, mais c'est pour ça qu'il y a un besoin de ces programmes de dépistage. D'accord? Chacun sait à telle date, je dois aller. Je sais quand j'étais en formation, il y a bien longtemps, mais quand une personne n'avait pas répondu à son rendez-vous, nous prenions l'ambulance pour aller voir la personne à la maison. Donc, parce que on doit faire ce dépistage. Donc, il y a l'importance, parce que le cancer est une maladie d'abord insidieuse, donc qui évolue d'abord à bas bruit,
silencieusement,
on ne peut pas le savoir. C'est pour ça qu'il y a l'importance ou la nécessité de dépistage, de masse, de dépistage, je dis bien systématique.
Docteur Soulou, on va rester dans le domaine de la santé, c'est votre domaine, la santé.
Oui.
Alors, comment se porte la santé en RDC plus de 50 ans après son indépendance?
Bien, heureusement que je suis bien né avant 50 ans, parce que ça va me donner 50 ans. Et disons, quand on était né, d'abord, il y avait vraiment des programmes de lutte contre les maladies. Je me rappelle qu'on venait quasiment chaque année rechercher des ganglions. On venait nous palper au cou ici. Je savais pas pourquoi, mais en fait, ils cherchaient tuberculose et tout ça. Donc, tout le temps, on voyait des agents sanitaires qui venaient nous palper chaque année. Et d'autre part, il y avait donc des vaccinations et obligatoires. Le vaccin était obligatoire. J'ai des cicatrices sur mon bras. Donc, il y avait des campagnes systématique de prévention et de dépistage. Ça, c'était systématique. Et à l'époque, il y avait beaucoup d'épidémies, il y avait tellement d'épidémies, je ne peux pas oublier que, en tout cas, pour mon petit village, hein, celui qui a mon âge, dans mon village, ils sont rares. Pour quelle raison? Parce qu'ils ont quasiment tous péri, hein, de suite des épidémies de variole. Il y avait des grandes épidémies, il y avait la maladie du sommeil, il fallait éradiquer la mouche, c'était. Donc tout cela, c'était des choses très, 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 très actives. Mais bien sûr que depuis 1960, tout ça a quasiment régressé. De quoi? Du fait de quoi? Parce que nous avons un jugement, mais bon, parfois sévère, sans voir ce qui a dû se passer depuis 1960. Nous n'avons pas vraiment eu le temps de nous organiser. Ça a été de guerre, fratricide. On s'est battu pour ceci, la politique. La politique, en réalité, nous a vraiment distrait. Nous a distrait et a empêché, disons, au Congo de pouvoir évoluer. Donc, en tout cas, à mon avis, je pense qu'en comparant à 1960, parce que j'avais déjà de l'âge, j'avais un âge, par rapport à maintenant, je pense que ça a quand même été, ça a régressé.
C'est parce qu'on n'a pas mis un accent sur ce secteur-là, on a négligé un peu le secteur de la santé.
Mais il faut alors que, disons, qu'on puisse vraiment s'y pencher. Il n'y a pas plus de richesse que la bonne santé, pour une population.
Par quoi, selon vous, le gouvernement devrait-il commencer pour redresser le secteur de santé?
Bon, je ne sais pas juger les uns les autres, mais je dis certainement qu'il y a vraiment beaucoup d'efforts, qu'il y a beaucoup d'efforts à fournir. Voilà.
Mais vous êtes du secteur.
Ah oui,
vous connaissez sûrement les priorités dans ce secteur.
Mais bien sûr. D'abord, c'est la lutte contre les épidémies. D'accord, il faut lutter contre les épidémies. Et je venais de citer ici, parce que il y a le temps qui compte, des épidémies qui sont aujourd'hui encore retrouvées, mais qui étaient quasiment disparu à l'indépendance. Deuxième chose, contrôler cette politique de prévention avec les dépistages systématiques. Nous venons d'en parler. Donc, il faut lutter contre les infections par les vaccins, par l'amélioration d'abord de la qualité de la vie, de l'environnement lui-même. Dans quel environnement est-ce qu'on vit? D'accord? Donc, il faut améliorer tout ce que nous consommons, l'eau et la politique de l'eau. D'accord? Les populations boivent quelle eau? D'accord? Mais maintenant, le comportement de nous-mêmes en tant que citoyens. Est-ce que nous avons des comportements citoyens? À partir du moment où dans les égouts, d'accord? Au lieu que l'eau ne soit pas stagnante, mais nous utilisons finalement les égouts qui existent en y mettant tout ce qu'il y a de plastique. D'ailleurs, le plastique lui-même, qui devrait, j'espère un jour le voir disparaître comme ça sur nos routes. Tout ce que nous mettons dans les égouts qui font finalement que l'eau devient stagnante, avec bien sûr l'apparition de moustiques. Et alors, et voilà. Donc, il y a, à mon avis, ce que le gouvernement doit faire, d'accord? Il y a certainement des comportements citoyens que nous devons nous tous avoir, et il y a certainement des efforts de ceux qui ont la connaissance. Parce que prévenir égale savoir. Si on ne sait pas, si on n'a pas le savoir, on ne sait pas prévenir. Donc, les scientifiques, les universités, la formation de nos cadres médicaux, d'accord? Dans termes de diverses, disons, maladies. Donc, tout cela, l'amélioration de l'instruction lui-même, l'équipement, donc de l'instrument médical, l'amélioration donc de la des qualités des soins, d'accord, avec des hôpitaux, des infrastructures adaptées qui ne se trouvent pas à de très grandes distances, ou alors avec des bonnes routes, d'accord, parce que vous pouvez avoir des hôpitaux qui sont équipés, mais ce n'est pas encore très très bien le cas pour le moment. Et si les routes ne sont pas, disons, de grandes, ce ne sont pas des routes, qu'il n'y a pas d'ambulance, etc., mais ça devient difficile. Donc c'est tout un cadre général qui demande bien sûr mesures, réflexions.
Alors puisque vous parlez d'hôpitaux, docteur Soulou, les hôpitaux ont un sérieux problème d'image aujourd'hui. Beaucoup les considèrent comme un mouroir parce que comme vous n'avez pas de moyens, vous n'êtes pas touché, on ne vous soigne pas.
Aïe, 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 mais vous ne dites pas faux, vous comprenez bien, mais on ne peut pas généraliser, on ne peut pas généraliser, il y a des efforts, mais les hôpitaux ne sont pas financés. Ne sont pas financés. Moi, j'ai dirigé un hôpital. Finalement, vous aviez raison de revenir sur mon CV ou mon curriculum. Vous allez bien vous rendre compte que moi, j'ai dirigé un hôpital, disons pendant 5 ans. C'était à l'époque les cliniques Ngaliema. Mais pendant les 5 ans que j'ai dirigé l'hôpital de 1990 à 95, d'accord, on n'a pas reçu pas une seule fois un financement de l'État. On avait les bâtiments, Oui, on avait le matériel qui existait, point. Alors si les hôpitaux ne sont pas financés, ne sont pas appuyés, et qu'il n'y a pas donc des organisations, qu'il n'y a pas de mutuelles par exemple, des assurances, mais comment voulez-vous que ces hôpitaux-là ne soient pas des mouroirs? Parce que même quand un hôpital fait un effort lui-même de pouvoir investir, mais s'il doit investir, mais s'il ne récupère pas le fonds investi, par des soins gratuits qu'il donnera, parce que vous avez dit, si vous n'avez pas d'argent, on vous laisse mourir. Mais si un hôpital ne fait pas payer, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais il va fermer. Il va fermer demain. Donc c'est un peu ça, les hôpitaux sont de mouroirs, la plupart du corps médical est assez démotivé. Donc, mais il y a des efforts à faire.
On va aller dans le secteur privé, c'est pas n'importe quel Congolais qui peut aller se faire soigner dans des hôpitaux privés. Les prix sont vraiment exorbitants, les Congolais ne savent pas quoi faire par rapport à ça. Docteur Soulou, vous êtes responsable d'un grand hôpital privé. Pourquoi chez les privés les soins coûtent cher?
Je vais vous donner un exemple, je ne sais pas si on s'imagine que au Congo, nos tarifs sont parfois 10 fois, même parfois plus, que les pays occidentaux. Il y a une connaissance à moi qui arrive aux États-Unis et il amène avec lui la malaria. D'accord, on l'hospitalise 3 jours. La facture, $10,000. Pour 3 jours, l'hospitalisation, $10,000. Vous dites, les soins sont chers. Permettez-moi, je ne veux pas dire rire. Mais le problème qui se pose, c'est le pouvoir d'achat de la population. Mais quand nous disons aussi pouvoir d'achat, on ne doit pas aussi accuser qui que ce soit. C'est vrai que les soins sont chers par rapport à ce que la population a. Mais les soins sont plusieurs fois moins chers. Je vais vous donner un exemple. Quand vous devez acheter, disons, un équipement, disons, de radiothérapie, pour soigner le cancer, parce que vous avez cité mon hôpital, nous facturons aux malades, disons, un peu au-delà de 1000, hein, du 1000 du dollar. C'est qu'il y a beaucoup d'argent parce que beaucoup de Congolais, et je suis conscient moi-même que les Congolais ne l'ont pas. Mais pour acheter un équipement de radiothérapie, mais il faut en mettre à la poche, il faut aller emprunter, il faut aller voir des banques pour au moins $1 million. Pour au moins $1 million. Alors, quand vous avez emprunté plus d'$1 million, que vous avez un équipement comme ça, mais vous allez soigner à combien? Et alors, maintenant, comparez ce que nous, on facture par rapport à ce que les autres hôpitaux privés, aussi bien d'Europe qu'etc., disons, facturent. Ça n'a pas de commune mesure. Bien que, chez eux, le patient ne ressent pas le coût, parce qu'ils se sont organisés. Si chacun pouvait mettre la main à la poche, bien sûr, avec l'organisation, avec, disons, l'initiative des gouvernants, bien sûr, je pense bien qu'il y a moyen de nous en sortir. Alors, en ce moment-là, on soignerait tout le monde.
Alors, docteur Soulou, lorsque vous n'êtes pas dans votre blouson blanc, comment vous passez vos moments?
J'ai toujours très peu de temps, je dors très peu. Je dors très très peu, parce que je me pose toujours des questions. Chaque chose que je vois m'interroge. Je n'ai face à moi que des interrogations. Et je vous dis vrai.
Vous n'avez pas le temps de détendre un peu vos nerfs avec une douce mélodie ou c'est pas autre chose, hein? Ça vous arrive jamais? Vous êtes tellement préoccupé par la santé des gens que vous n'avez pas le temps pour ça.
Mais en fait, je cultive aussi. D'accord, je cultive aussi. J'ai fait de l'agriculture aussi bien en termes d'élevage qu'en termes de planter quelque chose en fait. D'accord. J'entreprends pendant mon temps un peu libre, je me fais occuper par d'autres activités. Voilà.
Activités qui n'ont rien à voir avec la santé. Vous êtes aussi dans le domaine des affaires, docteur.
Mais oui, c'est vrai que je suis dans le domaine vous dites que je suis dans le domaine des affaires.
Vous êtes de l'hôtellerie?
Ah, mais bon. Mais, ok, je suis dans l'hôtellerie, c'est vrai, mais je ne travaille pas à l'hôtel. Je ne travaille en aucun hôtel. J'en ai quelques-uns, mais comme les hôpitaux également, j'en ai quelques-uns. Mais je travaille uniquement à l'hôpital. Les hôtels, oui, ils existent, mais vous savez pourquoi? Comment on en est arrivé là? Je dois recevoir un invité. Je vais dans un restaurant de la place et je vois le comportement de gens. Ils s'achètent une bouteille de ceci, ils mangent cela, et puis en sortant, ils laissent 10, 20 dollars, 1000 francs congolais, ils laissent ça. Et ça m'a piqué dans la tête. Parce que, qu'est-ce que nous voyons au quotidien? C'est qu'à l'hôpital, des gens viennent, on vient les larguer à l'hôpital, il est blessé, ou tout simplement il est déshydraté, et puis il n'a rien. Il n'a pas 1000 francs. Vous prescrivez la quinine pour la malaria, mais il n'a pas. Plein de personnes. Alors, voyant ce qui est donné, on a dit, écoutez, ce pourboire, pourquoi nous ne pourrons pas le ramasser D'accord? Pour soigner. En fait, vous dites, j'ai fait du business, mais l'argent que je récupère de ce secteur va principalement aux équipements médicaux. Et c'est à ça principalement qu'est utilisé l'argent que vous dites, l'argent du business. Voilà.
Docteur voilà. Soulou, nous sommes à la fin de notre entretien.
Oui.
Qu'est-ce que vous pouvez dire aux auditeurs de Radio Okapi qui nous suivent en ce moment, partout en RDC et même à l'étranger, grâce à notre site internet?
Oui, mais puis je dois dire que nous venons de commémorer, disons, le 4 février, comme chaque année d'ailleurs, la journée mondiale contre le cancer. Parce que le cancer, qu'on ne blague pas. Qu'on ne puisse pas se distraire. Le cancer tue. Le cancer est devenu la première cause de mortalité dans le monde. On peut bien guérir du cancer. Je ne peux pas dire que de toutes sortes de cancers, non. À 50% de types de cancers, on peut bien guérir. Mais mieux vaut ne pas l'avoir. Donc la prévention. Mais comme on peut toujours avoir le cancer, même si on a pris des mesures de prévention, ce qui reste, c'est quoi? C'est de se faire dépister. Il faut donc se faire dépister. Donc notre pays doit faire autant que les autres le font. Je pense que avec l'amélioration également de la qualité de technique des soins médicaux, en équipant les hôpitaux. Si on peut donc équiper les hôpitaux, il y a bien moyen que les soins soient de bonne qualité et on peut bien sortir du cancer. On peut guérir du cancer, mais il faut s'y prendre par le dépistage, par le diagnostic précoce, par les soins adaptés avec l'outil adapté. Sinon, il restera quoi? L'amélioration de la qualité de vie des personnes cancéreuses auxquelles nous pensons en ce moment.
Docteur Soulou, je vous remercie.
Merci beaucoup. Merci de m'avoir surtout reçu. Merci.
Ok. Grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais le docteur Stanislas Soulou Massé-Bamwang. Il est président de la Ligue nationale contre le cancer en RDC. Merci à Héritier Sidiakala qui est à la technique au micro Kéline Couté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radiookapi.net. Bon dimanche à tous et bonne suite de programmes sur la fréquence de la paix.